Bonjour Carolina, merci en tout cas de me faire passer sur ton blog. Je te réponds par podcast à ton interview. Je suis ravi de participer à cette interview et d'expliquer un peu plus en détail ce qu'est le podcast. Alors, c'est parti. Quelle est ma définition du podcast? C'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce que le podcast, c'est techniquement un contenu audio qu'on peut écouter en téléchargement ou en streaming. Et donc, ça peut prendre des formes vraiment multiples, diverses et variées. Et me plais d'ailleurs à croire à une version plutôt ouverte du podcast, plutôt que de la restreindre à des pratiques, des usages ou des modes audio. Je crois même si c'est un tout petit peu antinomique, que le podcast peut dépasser le cadre simple de l'audio, et pourquoi pas aller flirter de celui de l'expérience sensorielle dans un sens plus large, sans pour autant aller vers l'audiovisuel, parce que si on fait de la vidéo, c'est juste de la vidéo avec du son, ou du son avec de la vidéo, mais je pense qu'on peut avoir une définition un peu plus large du podcast que le simple contenu audio auquel on accède par streaming ou téléchargement. Même si c'est majoritairement ce que nous on fait, on participe quand même à des expériences plus globales par le podcast, notamment par exemple en participant à des formes d'audio guide immersif dans des musées où on est dans du contenu audio, mais on dépasse quand même un tout petit peu ce cadre-là. Ensuite, deuxième question. Quelle est l'histoire des podcasts? Eh bien, techniquement, le mot podcast, ça vient de l'agglutinement de deux mots. Je sais pas si c'est un terme qui existe, mais je le sors quand même. De deux mots, le mot broadcast, qui est donc le fait de diffuser quelque chose, et le iPod, qui était cet petit appareil MP3 proposé par Apple, qui a quand même pas mal participé à la transformation du monde de la musique notamment. Et donc c'était des contenus qu'on diffusait sur les iPods, qui était un appareil qui n'était pas connecté, c'était vraiment un lecteur MP3 un peu plus joli. Et donc ça vient de là, ça a participé à la création de beaucoup de contenus audio, à la base avec une scène amateur qui était très grande, qui l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. En Amérique du Nord, ça s'est professionnalisé il y a un peu plus d'une dizaine d'années. En France, c'est le cas depuis 4-5 ans, où ça fait quand même un certain temps qu'il y a des contenus professionnels qui existent, mais c'était surtout la scène amateur qui était prépondérante et on a vu une transformation se faire dans le secteur du podcast il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui, où il y a vraiment des acteurs professionnels qui n'ont fait que du podcast, qui ont essayé de structurer l'écosystème, le marché autour de ça. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est un outil qui est génial, qui est encore en plein essor, en plein boom. Il y a de plus en plus d'auditeurs de podcasts, même si on atteint quand même, c'est plus aussi exponentiel, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a juste pas des gens à l'infini. Mais on retrouve quand même des nouvelles formes, des nouveaux projets, des nouveaux modèles économiques qui n'arrêtent pas de sortir dans le monde du podcast, et c'est plutôt joyeux, je trouve. Pourquoi est-ce que les podcasts sont si demandés aujourd'hui? Je pense que le podcast est particulièrement demandé aujourd'hui parce qu'il répond à une demande en termes de contenu média qui était assez peu remplie, surtout auprès d'une frange de la population qui avait une utilisation assez particulière du monde des médias, qui cherchait des contenus plus pointus sur du plus long terme, aussi dans des démarches privées ou pas forcément défendues uniquement par le service public, comme ça peut être le cas avec la radio par exemple. Et donc, il y a des nouveaux usages qui se sont ouverts, en fait, particulièrement pendant le confinement où on s'est tous retrouvés chez nous. On est tous devenus plus ou moins aussi créateurs de contenu de médias parce que ça permettait de communiquer avec l'extérieur et de donner à voir l'extérieur, de partager son expérience pendant ce temps si singulier qu'était le Covid. Et en même temps, on était tous aussi en demande d'énormément de contenu. Le jeu vidéo aussi, par exemple, a connu un certain essor pendant ce moment-là, particulièrement une frange du jeu vidéo indépendant, et du jeu vidéo qui va aller gratter d'autres côtés de la population. Je pense que le podcast aussi est complémentaire de ces formes-là et qu'aujourd'hui, avec la démocratisation du format, du contenu, tout le monde aujourd'hui, en tout cas jusqu'à un certain point, pour ne pas dire un certain âge, on a constaté des différences de l'ordre de l'âge pour qui sait ou qui ne sait pas utiliser un podcast. Je vais pas donner de nombre pour ne froisser personne, mais malgré tout, jusqu'à un certain âge, en tout cas dans notre expérience, tout le monde sait comment utiliser un podcast, comment aller chercher un podcast, comment est-ce qu'on peut écouter ce contenu-là. Et donc, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, il y a aussi des applications qui ont participé à la démocratisation. Il y a Google qui a offert son application de podcast, Samsung. Apple était très en avance, en même temps, pas étonnant, parce que comme on parlait dans l'histoire, ça vient aussi de iPod et de Broadcast. Et donc, iPod, c'était un produit Apple, mais l'usage est devenu plus facile, plus commun, et il y a aussi des contenus qui se sont familiarisés, où les gens ont commencé à parler autour d'eux en disant « Écoute ce podcast, c'est super ». En plus, il y a une forme très libre dans le podcast, dans les formats qui peuvent exister, qui fait que ça peut convenir à vraiment beaucoup de gens différents, pour beaucoup d'usages différents. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est aujourd'hui très demandé. En plus, c'est quelque chose qu'on peut écouter dans la voiture, en allant courir, en faisant ses courses, ou à tous les moments. Autre, en faisant autre chose. Et ça, je pense que ça comble dans un temps toujours plus réduit, où il faut toujours être en capacité d'assimiler plus d'informations dans des temps de plus en plus courts, je pense que le podcast permet de résoudre une partie de cette équation. Quel est le besoin du client ? Alors, nous spécifiquement, on crée des podcasts à destination des organismes publics, culturels et touristiques, et donc ça peut être des ministères, des écoles publiques, des musées, des offices de tourisme, des mairies, des associations du secteur privé, ou des entreprises qui travailleraient dans ces domaines-là, des théâtres, etc. Les besoins qu'on constate, en tout cas ceux pour lesquels on vient nous chercher jusqu'ici, c'est précisément pour toucher un public qui est difficile d'accès pour ce genre de structure, et donc typiquement des gens aisés, cultivés de 25 à 35 ans. Je caricature, mais c'est quand même globalement ça, et la jeunesse d'une manière générale. Que ces structures peuvent avoir du mal à toucher et auxquelles elles peuvent avoir du mal à communiquer et qu'elles aimeraient bien parce que ce sont des structures avec de nombreuses ressources qui sont en plus la plupart du temps relèvent du service public ou de parapublic ou de financement public et donc ont un vrai désir, une vraie envie d'apporter des choses à l'ensemble de la population et donc de voir qu'une partie de leur message, de leur contenu échappe à une partie aujourd'hui encore majoritaire de la population, bah c'est, ça les questionne en tout cas, et donc ils viennent chercher ça chez nous, ils essayent de répondre à ce besoin-là. On est aussi pas mal questionnés sur notre expertise à proposer du contenu immersif, innovant, qui sort des sentiers battus. Le slogan du studio Flamboyance, c'est des podcasts originaux, décalés et savants. Et donc, je pense que une partie des gens vient nous chercher à cet endroit-là pour avoir du contenu original, décalé et savant, ce qui n'est pas si simple que ça à trouver en soi, d'autant plus que du podcast, on n'est pas très nombreux à en faire. En tout cas, c'est nous, les besoins qu'on trouve aujourd'hui, ce sont ceux-là, et c'est en tout cas ce pourquoi on vient nous chercher. Ensuite, dans quel domaine on exerce ? Eh ben, comme je le disais dans la question précédente, c'est vraiment organisme public, touristique et culturel. On n'est pas obtus, on n'est pas fermé à ça. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres endroits dans lesquels on a envie d'aller. D'une manière plus générale, en fait, si on veut penser un peu hors sectorisation, ce sont des endroits où il y a des gens qui souhaitent apporter quelque chose au plus grand nombre. Et donc, on évite le secteur pur marchand, dans lequel on se retrouve pas complètement. Mais après, en fait, tout le reste peut rentrer dans le cadre de ce qu'on souhaite faire. Je réfléchis si jamais il y a un autre endroit où on souhaite aller. Des endroits, en tout cas, qui sont en accord avec nos valeurs. Et donc, généralement, c'est des choses qu'on trouve peu dans le pur marchand. Mais on est très attentifs, nous, aux questions de diversité, d'inclusion. C'est-à-dire que tout le monde puisse se saisir de l'outil podcast. Quelle que soit la forme, c'est-à-dire pour faire du podcast, pour écouter du podcast, et l'inclusion, c'est pas juste l'adaptation, c'est pas rendre les choses possibles à l'écoute ou créer, j'en sais rien, des micros adaptés, c'est aussi de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière et que en fait les problèmes que chacun et chacune peut rencontrer pour créer ou écouter du podcast peuvent être compensés, et donc on est attentif, on essaye d'inclure cette démarche-là. et aussi les questions d'accessibilité, parce que je trouve que le podcast permet d'ouvrir aussi un ensemble de contenus à des personnes pour qui ça peut être compliqué d'avoir accès à du contenu d'autres manières, par l'écrit par exemple, ou même par la vidéo, etc. Et je trouve que le podcast peut permettre de combler un besoin à cet endroit-là, et donc globalement, toutes les structures qui correspondent à nos valeurs et qui sont aussi attentifs à ces questions d'inclusion, d'accessibilité et de diversité, ça c'est clair. Ensuite, et dans le milieu de la mode, eh bien, il y a quelques podcasts de mode qui existent, même pas mal en fait. D'autant plus que les marques ont commencé à se positionner, le podcast, ça reste le média de l'émotion par excellence. Il y a quelques grandes maisons de luxe qui ont lancé du podcast, mais pas que. Il y a aussi d'autres petits créateurs qui ont lancé du podcast. Il y a d'autres créateurs, créatrices, critiques, etc., qui ne sont pas dans le monde de la mode ultra spécifiquement, mais qui ont des liens avec, qui sont dans le monde du podcast. Par exemple, dans les drag queens, t'en as pas mal qui, en France, participent à des podcasts, commentent, documentent les robes ou les tenues qui sont créées pour elles et qui participent tout à fait au secteur de la mode et à l'innovation. Dans l'endroit de la tech aussi, on a vu là la dernière Fashion Week où il y a eu quand même quelques bouleversements dans la mode, notamment de l'utilisation de technologies pour créer des robes en spray par exemple ou des choses comme ça. Et ça a été pas mal commenté, y compris par le podcast, dans des podcasts qui n'étaient pas techniquement liés à celui de la mode, mais qui en parlaient pour l'usage technique. La mode, c'est aussi transversal. Et le podcast est un média parfait pour discuter de mode, parce qu'on a le temps, on n'a juste pas le visuel, mais en fait, c'est pas grave, il y a aussi d'autres sens qui peuvent être exploités par la mode que le simple visuel, et notamment aborder les sensations de toucher, d'histoire, de symbolique, etc., qui sont des choses qu'on peut tout à fait aborder avec le podcast sans aucune difficulté. Est-ce que le marché est encore en extension ou est-il déjà saturé ? Le marché du podcast est encore en extension. On constate quand même cette année un palier. On a lu le résultat de l'étude du CSA sur qui sont les auditeurs de podcast. On constate quand même qu'il y a un palier qui a été atteint en ce moment, que la croissance, elle ralentit. Aussi parce qu'il y a d'autres problématiques qui touchent les populations, qui sont les populations majoritaires auditeurs-auditrices de podcast, notamment la guerre en Ukraine, par exemple, ou l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, qui sont des questionnements nouveaux qui sont apparus parmi les auditeurs et les auditrices de podcasts, et qui du coup ont eu moins de temps, ont moins cherché à se concentrer sur ce que le podcast pouvait apporter. Malgré tout, il y a encore beaucoup d'endroits sur lesquels on peut aller chercher, que ce soit parmi les jeunes, parmi les personnes âgées, parmi des catégories socio-professionnelles différentes, des personnes qui ont... pas forcément fait d'études supérieures, etc., qui sont des endroits où des personnes, en tout cas, auxquelles on pourrait proposer du contenu de qualité. Et je pense que le podcast est tout à fait un outil intéressant en termes de médias, aussi pour tous les publics d'une manière générale, parce que en fait, c'est pratique, c'est accessible, et on réfléchit même globalement dans le secteur, nous en particulier, à une manière d'y accéder sans avoir accès à une connexion internet, sans être familier avec les outils, ce qui peut être le cas de tout un tas de personnes en situation de handicap ou de personnes âgées par exemple, qui sont plutôt dans ce qu'on appelle la fracture numérique, quoi, vraiment isolées de ces composantes-là. Et nous, on essaye d'être vigilants par rapport à ça. Quel futur pour le podcast ? Je pense qu'il y a encore un milliard de trucs possibles à faire pour le podcast, ce soit en termes de format, de durée, de manière de penser le média, de le rendre accessible, qui va écouter du podcast, qui va faire du podcast, comment on va en faire. Je pense qu'il y a vraiment un boulevard encore devant nous. Je me plais à comparer l'évolution du podcast avec l'évolution de YouTube, notamment en France, où YouTube, il y a 8-10 ans, c'était encore un média relativement confidentiel, utilisé par seulement une partie de la population, avec des contenus très spécifiques. Il y a quelques créateurs qui ont participé, qui étaient très identifiés, qui ont participé à faire évoluer la position de YouTube en France, dans des directions d'ailleurs assez différentes. Et je pense que dans le podcast, il se passe aujourd'hui aussi un peu la même chose, où il y a des créateurs qui participent en proposant des choses très différentes, qui marchent tous, toutes et toutes, chacun de leur côté, Et qui du coup ramène des nouveaux publics, des nouveaux usages, des nouveaux formats. Et on voit sur YouTube, ça a encore explosé. Il y a encore d'ailleurs des marges d'évolution, je pense, du marché des formats proposés, de l'investissement par les médias traditionnels, etc. Le podcast, c'est exactement pareil. Je pense qu'il y a un avenir très très heureux pour le podcast avec des outils de plus en plus accessibles. Le son, c'est quand même une des choses les moins chères en termes de médias pour produire. Si on met de côté l'écriture, où là, c'est vraiment encore moins cher. Mais le son, c'est vraiment pas très cher. C'est accessible, c'est pratique, ces outils qui sont pas très techniques, qui peuvent l'être vraiment, et on peut faire des choses hyper techniques avec le son, mais pour proposer des choses relativement correctes, il n'y a pas besoin d'être un technicien de fou furieux, en tout cas pour un certain nombre d'usages, que ce soit, je sais pas, de l'interview, de la parole, etc. Peut-être que je vais être contredit, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, c'est globalement accessible, et... pour tout le monde, et donc je pense que ça va emmener encore plus de gens à créer du podcast, sans compter le fait que sur les outils, les téléphones, etc., les sons sont malgré tout de mieux en mieux. On a connu un boom des caméras, peut-être que le prochain boom sera celui du son et des micros sur les téléphones qui participeront encore à créer des podcasts d'encore meilleure qualité avec encore moins de matériel. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi le podcast ? Eh bien, c'est presque une question de hasard. Je devrais pas répondre ça, mais moi, je suis un gros auditeur de podcast. On est deux dans le studio Flamboyance. Il y a Michel Rommel et moi, donc Louis Duruflet. Moi, je suis un gros auditeur de podcast depuis longtemps. Mes premiers podcasts, j'ai dû les écouter il y a 10-12 ans, quand j'étais étudiant, même si c'était assez partiel. Et c'est vraiment en 2017 où je me suis mis à fond dans le podcast. En plus, ça a coïncidé avec un boom du podcast en France, notamment de la scène amateur qui a explosé et de quelques podcasteurs professionnels qui commençaient à faire leurs premières armes, qui sont aujourd'hui d'ailleurs parmi les podcasts les plus écoutés. Je pense à Transfert, par exemple, et puis la création de Louis Media, etc., qui a connu vraiment des nouveaux modèles. Et donc, moi, j'étais un gros auditeur avec Michel qui vivait au Canada à ce moment-là, pendant que moi, je vivais en France. On animait à deux un podcast. Je trouvais que on avait trouvé que c'était une bonne manière de se créer un rendez-vous à deux, un rendez-vous entre copains où on discutait tout et de rien dans un podcast qui existe encore, qui s'appelle Popcorn Aigre Doux, où on parle de sujets de société, de cinéma et de tout un tas d'autres médiums, d'ailleurs BD, jeux vidéo, livres, etc., un peu pop culture. Et donc c'était ce rendez-vous mensuel là. Moi j'avais pour projet de quitter le pays et de partir au Japon. Sauf que en plein pendant le Covid, c'était pas possible. Et donc je me suis dit, allez, en attendant, je vais faire du podcast. De toute façon, on verra bien où ça mène. Ça m'occupe de certaines manières. J'avais du chômage pendant un certain temps, en plus que je continue à travailler partiellement à côté. Et donc sur ça en fait, j'ai trouvé que c'était passionnant, qu'il y avait vraiment un milliard de trucs à faire, et donc je me suis dit, allez, je me lance complètement. Michel m'a rejoint dans cette aventure, et aujourd'hui on fait du podcast, et c'est d'ailleurs le moment de parler de l'histoire du studio Flamboyance. C'est ça en fait, on devait partir au Japon, on n'y est pas allé. En attendant, entre guillemets, on a fait du podcast, et puis ça a fonctionné, on s'est dit bingo, en fait on y va, on prend vachement de plaisir à le faire, donc on y va à fond quoi, et on ne fait que faire des projets intéressants, être dans la créativité, rencontrer des gens passionnants tous les jours, que ce soit du côté de Tourcoing dans le nord de manière élargie, à Paris, en France, dans le monde, on est en contact tout le temps avec des gens intéressants, et ça c'est vraiment fascinant. Pour nous, en tout cas, et donc l'histoire c'est ça. Puis pourquoi le studio Flamboyance ? C'est parce que on aimait bien cette idée d'avoir plein de flambeaux comme ça qui brûlent très fort, très vifs, qu'on voit de loin, qui marquent et qui n'ont pas forcément vocation à rester éternellement, de s'ancrer dans la durée. Et donc ça flamboie comme ça et c'est un ensemble de flamboyance. Et puis ça rappelait aussi les grandes heures du mouvement flamboyant. Notamment dans les milieux homosexuels aux États-Unis et en France, qui étaient pareil des gens qu'on n'oublie pas, avec des plumes, des couleurs vives, fauves, qui marquaient, qui impressionnaient pas mal, et ça nous connectait aussi à cette histoire-là qu'on trouvait intéressante. Qui sont nos clients ? Eh bien, aujourd'hui, on a eu pas mal de clients, notamment le ministère de la Culture, avec le podcast Les Ailes du Patrimoine, l'IRA, l'Institut Régional d'Administration, et donc un podcast qui s'appelle Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, qui est passionnant. On a également comme client le collectif HF, qui Hauts-de-France, qui participe au mouvement HF pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur de la culture. Et donc, on a reçu par ce biais-là des financements de la région et de la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, qui est une émanation de l'État, installée en préfecture. On a également eu les archives nationales du monde du travail et le ministère de la Culture sur un podcast pour un musée qui s'appelle Femmes et archéologues, qui une exposition qui arrive aujourd'hui au mois de novembre, qui va arriver au musée de l'Homme à Paris, ou à la maison de l'Homme à Paris, qui est une super expo sur comment travaillent les archéologues dans leur quotidien. Et c'était vraiment très très intéressant à faire. Et puis on a plein d'autres clients sur le feu, mais dont je ne suis pas sûr de pouvoir en parler tout de suite. On a travaillé également pour une grosse radio nationale, dont je ne peux pas citer le nom, mais qui était un projet pareil, super intéressant. Voilà, et on espère avoir beaucoup d'autres clients. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout ce que je voulais parler. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions de la manière dont tu voulais, Carolina. Je te remercie pour tout ça. Et puis, je te dis à très vite. Ciao, ciao.